AVS avec Philippe Robichon.
AVS, votre santé, alors on ne fait pas le pont, on est sur le pont, un chouïa en retard, mais nous sommes là pour un partage de connaissances avec le docteur Réginald Allouche. Comment ça va, docteur?
Bah écoutez, ça va très bien, quand je viens ici, je suis très heureux d'être ici.
Bien, vous êtes venu avec votre nouveau bolide.
Oui, c'est une... Ça m'a pris, j'avais 16 ans et ça m'a jamais quitté.
Ouais, mais celle-là, c'est une neuve, c'est pas...
Ah oui, c'est une neuve, c'est pas une de mes anciennes.
Ouais.
Ouais, parce que je suis collectionneur, voilà.
Je ne peux pas vous en dire plus.
Voilà.
Docteur Réginald Allouche, vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Mmh. Et vous êtes auteur notamment de la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Alors, on est en direct le mercredi de l'Ascension. On va revenir quelques semaines auparavant où vous nous avez parlé dans cette précédente émission, docteur Allouche, du sucre qui nous faisait vieillir, notamment grâce à une réaction chimique, la glycation. Alors, on rappelle pour tout le monde ce que c'est que la glycation.
Eh bien, écoutez, c'est simple, c'est que dans votre sang, vous avez une glycémie, vous avez du sucre circule, c'est la glycémie à jeun. Il faut toujours du sucre parce que sinon, on peut tomber dans un malaise et voir un coma. Et cette glycémie à jeun, je le rappelle, elle est entre 0,7 g par litre et 1,05 g par litre. Voilà. Il y a 0,7 g par litre au minimum de sucre qui circule dans votre sang. Mmh. Mais à partir du moment où vous avez du sucre qui circule dans votre sang, il va se marier avec des molécules. C'est un peu comme si vous aviez vous étiez en train de préparer un plat, vous mettez un peu de sucre pour faire le liant. Eh bien, il va se lier avec des molécules, il va se lier avec des protéines, il va mettre un petit bout de sucre au bout des protéines. Et donc, il va modifier l'action des protéines. C'est assez simple à comprendre. Alors, quand il y en a juste entre 0,7 g et 1,05 g par litre, qui est la normale, il y a effectivement une petite glycation. D'ailleurs, elle est tellement évidente que pour tous les gens qui font des tests et des bilans sanguins, vous savez qu'on mesure deux choses. La glycémie à jeun, c'est-à-dire celle que vous avez dans le sang et qui circule et qui est régulée par le foie. Je le rappelle, c'est lui qui régule la glycémie. C'est lui qui lâche quand il en faut. C'est lui quand il n'y en a pas assez. C'est lui qui libère. Il a les réserves de sucre. Et puis, on mesure aussi ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. On l'avait expliqué la dernière fois, mais on va le réexpliquer. L'hémoglobine glyquée, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sang, vous avez des globules rouges qui transportent l'oxygène. C'est pour ça qu'ils sont rouges, parce qu'il y a de l'oxygène. Mmh. D'ailleurs, quand il n'y en a plus, quand ils ont délivré leur oxygène aux organes, eh bien, et la couleur du sang est un peu plus foncée parce qu'il y a moins d'oxygène. Cette hémoglobine, il y a une partie de l'hémoglobine. Donc, hémoglobine, ça se note HB. Hémoglobine, c'est assez simple à comprendre. Et puis il y a une fraction de cette hémoglobine, parce que c'est une grande molécule, qui s'appelle la fraction A1C. Celle-là, c'est celle-là qui est chargée de se marier avec le sucre, d'accord. Et donc, quand elle se marie avec le sucre, on mesure l'HbA1c, c'est-à-dire la fraction A1c de l'hémoglobine. Voilà.
Et c'est ça que vous voyez sur les résultats de vos analyses.
Exactement. Et cette hémoglobine glyquée, eh bien, on l'appelle aussi glyquée, glycosylée, HbA1c, c'est ses noms. Eh bien, elle doit être toujours inférieure à 5,7%. Elle se mesure en pourcentage. Voilà. Donc 5,7%, c'est le maximum de la fraction A1c de l'hémoglobine qui est mariée avec du sucre. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que le globule rouge qui circule dans votre sang, il dure à peu près 3 mois. Donc il est fabriqué, souvenez-vous, toutes les cellules sanguines sont fabriquées par la moelle osseuse, par vos os, circulent ensuite à maturité, et ensuite au bout de 3 mois, le globule rouge est détruit dans la rate et un peu dans le foie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc, pendant 3 mois, on a, avec l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire la fraction A1C mariée avec le sucre, on sait combien vous avez eu de sucre pendant 3 mois. C'est-à-dire que c'est une moyenne. La glycémie à jeun que vous faites lors de l'examen au laboratoire, c'est la glycémie du jour, du matin, c'est tout ce que ça dit. Et l'hémoglobine glyquée, ça vous donne le panorama, la visibilité sur 3 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire les deux. Parce que si vous n'en faites qu'une, vous pouvez très bien avoir une glycémie normale et une glyquée anormale. Je rappelle l'hémoglobine glyquée. Donc on rappelle l'hémoglobine... la glycémie à jeun entre 0,75 et 1,05, donc 0,7 à 1,05, ça dépend des individus, bien sûr. Et puis, la glyquée, toujours inférieure à 5,7%, parce qu'au-dessus de 5,7% et jusqu'à 6,4%, c'est le prédiabète, et au-dessus de 6,4%, c'est le diabète de type 2.
Bien, je vais prendre mon élan, docteur Alouche, si vous voulez bien, puisque nous allons parler maintenant de la séquestration splanchnique.
Ah, la splanchnique.
Splanchnique.
C'est des mots géniaux, hein. Séquestration splanchnique. Ça pourrait faire même un titre de film. Hein.
Ah oui.
Voilà, vous auriez la série 1, la série 2, la série 3.
Et quand on Google ce mot, il n'y a pas énormément de résultats aujourd'hui. Très peu.
Oui, c'est des mots qui sont... Vous savez, beaucoup de mots en médecine sont construits soit à partir de mots grecs, comme diabète, ça vient de diabétès qui traverse. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était aperçu que les petits enfants qui avaient du diabète à l'époque de type 1, eh ben, ils buvaient, ils pissaient, qui traversent. Voilà, ça c'est diabétès, c'est le terme grec. Et puis, splanchnique, c'est probablement aussi un terme issu du grec ou du latin, parce que la plupart des médecins, dans les années, à l'école de Montpellier, qui a été créée, je crois, au XIIe siècle ou au XIIIe siècle, qui a été la première école de médecine au monde, on parlait souvent. D'ailleurs les médecins à l'époque finissaient, on leur mettait le suffixe us, diaphoirus. Médecin, parce qu'on était
on savait qu'il était médecin.
Voilà, exactement. Bon, je passe sur ces détails. Donc, la séquestration splanchnique, pourquoi j'en parle ? Parce que tout à l'heure, on a parlé de la glycation. Et effectivement, le sucre se marie avec, bien entendu, l'HB, l'hémoglobine A1C. Mais il se marie avec plein de choses. Sur la peau, par exemple, sur les cellules qui vont faire la peau, les protéines que fabrique. Parce que qu'est-ce que fait une cellule, en fait ? C'est une usine. Elle fabrique des protéines, des structures, des membranes, des anticorps, voilà. Et donc, quand il y a du sucre, trop de sucre dans le sang, eh ben, il y a certaines de ces protéines qui vont se marier avec le sucre, ce qu'on appelle la glycation. Donc ça, c'est la première effet du vieillissement. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on a analysé les vaisseaux sanguins des momies en Égypte, et alors, en moyenne, ils avaient 40 ans quand ils étaient momifiés.
Ils vivaient pas vieux. Hein.
Ils vivaient pas très vieux parce que les conditions d'hygiène n'étaient pas bonnes. Et puis, bon, enfin, peu importe, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des pharaons. Mais, en fait, ils avaient déjà dans le sang, ils avaient déjà des problèmes dans leurs artères. Parce qu'il faut savoir que le sucre, quand il va circuler, il va aussi commencer à ronger les artères. Mais revenons à la séquestration splanchnique.
Splanchnique.
Qu'est-ce que ça veut dire ? À partir de l'âge de 60 ans, et vous allez comprendre pourquoi c'est un effet indirect, mais c'est un effet très important. À partir de l'âge de 60 ans, votre tube digestif, donc œsophage jusqu'à l'anus, et donc avec l'intestin...
Ça fait quelques mètres.
Oui, ça fait 6 mètres. Eh bien, ce tube digestif, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va... C'est l'organe qui vieillit le moins dans l'organisme.
C'est fou, hein ?
C'est vraiment l'organe... Vous avez 100 ans, mais vous mangez, vous digérez, vous allez à la selle. Et donc, c'est l'organe qui vit le plus longtemps de très, très, très loin. Pourquoi ? Parce qu'il a une propension à garder les protéines. Donc, en fait, vous allez voir comment c'est indirect et comment c'est intéressant pour l'anti-âge. Il garde à peu près, quand vous mangez des protéines, vous savez que les protéines, vous avez plusieurs choses que vous mangez. Vous avez les sucres, les graisses et les protéines. Les sucres et les graisses, ça se stocke. Les graisses, ça se stocke. Les sucres, ça se stocke sous forme de graisse. C'est ce que les gens
ont du mal à comprendre. C'est pas la graisse qui se
transforme. Les sucres, le foie, quand il a trop de sucre, il les transforme en triglycérides, glucose, parce que c'est facile à stocker, parce qu'il a une autre forme de stockage qui s'appelle le glycogène, qui prend beaucoup de place dans le foie. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il le met sous forme de triglycérides et il les envoie dans les cellules spécialisées, les adipocytes qu'on a autour du ventre, des fesses, du visage, des bras et ainsi de suite. Voilà. Donc, et le troisième, c'est les protéines. Donc les sucres et les graisses, vous pouvez les stocker. Vous pouvez vous gaver et les stocker. Hein, puisque, souvenez-vous, nous venons d'un temps où on ne mangeait pas tous les jours. Et où la préoccupation des gens tous les matins, c'était qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger et donner à manger à mes enfants et à mes proches. Voilà. Mais les protéines, ça ne se stocke pas. Quand on les mange, on les utilise et puis après, on ne peut pas les stocker. Donc, c'est pour ça qu'on chassait régulièrement. Il fallait chasser. Parce que sinon, il n'y avait pas de protéines.
Voilà. Alors après, il n'y avait pas de réserve de protéines, en fait.
Aucune.
D'accord.
Donc, quand vous n'avez pas de protéines, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas d'acides aminés. Les protéines, en fait, c'est des chaînes d'acides aminés, des briques de construction. En fait, c'est comme si vous n'aviez plus de Lego pour continuer, de pièces de Lego pour continuer à vous construire. Pourquoi continuer à vous construire quand vous êtes adulte ? Tout simplement parce que toutes les cellules se régénèrent. Il faut tout le temps, c'est une constante régénération de vos organes. Si vous n'avez pas de petites briques de Lego pour reconstruire vos organes, eh bien, vous devenez vieux et vous mourrez. Voilà. Donc, en fait, les protéines, il faut chasser tout le temps. Alors, il y a eu la révolution agricole, ce qui fait que l'homme s'est sédentarisé. Il était avant cueilleur, chasseur-cueilleur. Il s'est sédentarisé. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à fabriquer, à faire des céréales. Et dans les céréales, vous avez des protéines qui sont en général d'une valeur nutritionnelle plus pauvre que les protéines animales. Non, c'est pas l'équivalent. Mmh. Il faut en marier plusieurs pour avoir l'équivalent des acides aminés qui vont permettre de construire l'humain. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le tube digestif, pour revenir à lui, eh bien, il garde, quand vous avalez des protéines, il en garde 20% pour lui, pour se construire lui.
C'est ça la séquestration splanchnique.
Alors, ça, c'est la séquestration splanchnique normale.
D'accord.
Dans la vie normale. Et puis, à partir de 60 ans, figurez-vous qu'il n'en garde plus 20%, il en garde 50%.
Pourquoi ?
C'est comme ça. C'est l'effet de... Il se protège d'abord. C'est probablement une très bonne idée, parce que vous savez très bien que, bien sûr, si on a le cœur qui s'arrête, on ne peut pas vivre. Mais si on n'a pas de tube digestif, on ne peut pas durer sur la... On ne peut pas aller sur la durée. Mmh. Personne ne se dit, tiens, cette personne a fait 110 ans, 120 ans, parce qu'en gros, on peut aller jusqu'à 120 ans, globalement.
Aujourd'hui, c'est... Voilà.
Le nombre de divisions cellulaires...
On est programmé pour
on
vivre.
On est programmé pour vivre jusqu'à 120. Voilà. Si Dieu le veut, comme on dit.
Ouais.
Mais la chose, c'est que si on n'avait pas de tube digestif, on ne pourrait plus absorber d'aliments, et donc on ne pourrait pas aller jusqu'à 120. Donc en fait, paradoxalement, l'organe le plus protégé et celui qui vieillit le moins vite, de très loin, c'est le tube digestif. Pourquoi ? Parce qu'il prend lui-même les protéines.
Alors on verra ce qu'il en fait de ces protéines.
Justement.
En plus...
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
C'est l'occasion pour moi de remercier le docteur Alouche pour tout ce qu'il nous apprend. Et là, on a commencé cette série d'émissions sur la question que vous posiez la dernière fois, qui était le sucre fait-il vieillir ? Alors, on avait vu un des processus, hein, une réaction chimique qui est la glycation. Et il y a un autre processus dont vous êtes en train de nous parler, qui s'appelle donc la séquestration splanchnique.
Alors c'est donc, très indirect, docteur. Mais je crois que nos auditeurs de Beurre FM maintenant nous connaissent bien.
Ouais.
Ils ont un certain savoir.
Le niveau a monté.
Ah, le niveau a monté indéniablement, parce que lorsque je suis interrogé, je m'aperçois du niveau de nos auditeurs. En fait, la séquestration splanchnique, c'est donc le fait que le tube digestif lui-même, l'intestin, va garder non pas 20% des protéines qu'il ingère, mais
quand il est
50%
jeune.
Quand il est jeune,
voilà.
Mais 5, la moitié. Et alors, ce qui se passe à partir de 60 ans à peu près. Donc, le problème, qu'est-ce qu'il est ?
Alors, je vous interromps, oui. mais ce n'est pas 60 ans pile poil. Hein.
Non, mais attendez. En médecine, je vais vous dire, de toute façon, et vous pouvez trouver sur Terre un individu de 92 ans qui, lui, n'aura pas de 50%. Ça, en médecine, il faut savoir, ce sont des données statistiques.
Mmh. Hein, c'est autour de 60 ans.
Voilà,
donc,
c'est la loi de Pareto. Ouais. 80% des gens, machin. Et puis, il y a toujours 20% sur les bords de la cloche de Gauss. Voilà, tout le monde connaît ça, donc je ne vais pas... c'est les mathématiciens qui connaissent bien ce processus, mais en gros, on peut dire 80% des gens sont comme ça. Donc, la séquestration splanchnique, c'est que à partir de 60 ans, on va le dire comme ça, vous allez garder 50%, votre tube digestif va garder 50% des protéines. Je vous rappelle, les protéines, ce sont des éléments qui sont issus soit des viandes, œufs, poissons, soit aussi qui viennent des céréales, même si elles sont plus pauvres en acides aminés, mais en acides aminés essentiels, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais à ce moment-là, ben le tube digestif, lui, pour se sauvegarder, va en garder la moitié. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que parallèlement, il y a deux autres processus. Le premier, c'est que, on le sait tous, à partir de 60 ans, souvent on a moins envie de manger de la viande et des protéines. C'est-à-dire que on n'a plus vraiment de goût pour ça. Et c'est là où le sucre intervient. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à aller plus vers les féculents. Qui, je le rappelle, les féculents, le riz, les pâtes, les pommes de terre, sont des sucres. D'accord ? Alors bien entendu, si on les cuit beaucoup, c'est du sucre pur, c'est comme si vous aviez allé du sucre en poudre. Si vous les cuisez normalement, dites al dente, vous en aurez un peu moins. Enfin, vous aurez un effet un peu inférieur. Mais en fait, on va commencer à remplacer avec
ça. C'est
l'âge.
Ce que vous appelez la rétrogradation, ça ?
Non, la rétrogradation, c'est autre chose. C'est que quand vous faites un plat de pâtes trop cuites, si vous voulez que... Vous savez que des pâtes trop cuites, c'est comme si vous mangez du sucre. Ils ont un index glycémique, une charge glycémique très importante. D'ailleurs, on reviendra sur la notion de charge et de la santé du cœur. Et lorsque vous mettez ces pâtes au réfrigérateur pendant la nuit, l'amidon va refaire un peu les liens. Pourquoi ? Parce que quand vous cuisez trop, L'amidon, qui est une chaîne de plusieurs centaines de milliers de sucres attachés, lorsque vous les cuisez, la cuisson coupe les liaisons. Donc, quand vous allez manger ça, eh bien, vous allez manger des molécules de glucose déjà détachées. Donc, il n'y a plus de travail et le sucre va passer directement dans le sang. Alors que si vous ne cuisez pas trop, quand vous allez les avaler, il va falloir du temps pour l'organisme pour couper les sucres et les intégrer. Donc, la sécrétion de l'insuline, cette hormone qui se déclenche dès que le sucre arrive, elle va être plus douce que si vous mangez des pâtes trop cuites. Donc, la rétrogradation de l'amidon, c'est quelque chose qui se produit après 6 heures dans le réfrigérateur. Et lorsque vous pouvez faire à ce moment-là une salade de pâtes ou les réchauffer un petit peu et vous aurez baissé l'index glycémique. C'est une très bonne question.
Idem pour les salades de pommes de terre.
Idem pour la pomme de terre, pour le riz, parce que l'amidon, c'est toujours à peu près le même. On avait fait d'ailleurs une émission sur l'amidon, on en refera une, parce que l'amylose, l'amylopectine, c'est des notions aussi, si vous allez sur Internet, qui sont très difficiles.
Il n'y a pas beaucoup d'entrées.
Parce que c'est vraiment la structure même de l'amidon, et c'est vraiment de la chimie.
Alors, on revient à nos protéines.
Oui, donc qu'est-ce qui va se passer à 60 ans? Vous aurez donc ces trois effets. La séquestration splanchnique, c'est-à-dire le tube digestif qui se dit... Moi, je veux bien vieillir, je garde la moitié des légos pour moi, pour me reconstruire. Plus que 20%, mais 50%, une protéine sur deux quand même. Deuxièmement, vous avez plus de 60 ans et puis vous avez plus envie de manger de la... Vous avez moins de goût pour la viande rouge, le poulet, les sardines, les poissons et ainsi de suite. Et souvent aussi, les gens qui ont malheureusement pas assez de pouvoir d'achat, les protéines, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, on va vers le moins cher, c'est-à-dire les amidons, hein, les féculents. Donc, vous voyez déjà, c'est un deuxième phénomène. Puis, un troisième phénomène aussi qui compte beaucoup, c'est qu'on a parfois une hygiène dentaire et une santé bucco-dentaire qui est moins bonne. Donc, on a mal quand on mâche. On n'a pas, là aussi, c'est une question de moyens. On n'a pas eu les moyens pour se mettre des implants, pour faire truc. Donc, on a des appareils parfois décomplets qui tiennent pas très bien.
Et c'est compliqué de mâcher de la viande, en tout cas.
Et exactement. Donc, on va privilégier tout ce qui est plutôt mou, hein. Et les féculents, c'est mou. La pomme de terre, on l'écrase. On fait de la purée. Les pâtes, c'est mou. Le riz, c'est mou. Donc, en fait, on va avoir tendance à aller plus vers ça que vers des chairs qu'il va falloir mâcher, mastiquer, et ainsi de suite. Donc, ces trois phénomènes font qu'on arrive à manger moins de protéines. Et moins de protéines, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Là, c'est un nom comme ça, sarcopénie. Pénie, pas assez, sarco. Donc, on a moins de protéines. Et en fait, normalement, on doit manger entre 0,7 et 0,9 grammes par kilo de poids de protéines.
Par jour.
Quand on est plus âgé, à partir de 60 ans, il faut manger 1,2 grammes par litre, donc à peu près 30% de plus.
Et ça, c'est une information qui est importante parce que les personnes âgées ont tendance à moins manger de protéines, quitte à en manger plus du tout d'ailleurs.
Et exactement, parce qu'il y a les trois facteurs. Le goût qui commence à devenir moins réactif aux viandes et ainsi de suite. Deuxièmement, la séquestration splanchnique. Troisièmement, le remplacement par les sucres. Et même quatrièmement, le problème des dents. D'ailleurs, à ce sujet, je dois dire que il y a très très peu d'informations sur le problème de la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est ce qu'on appelle le tartre. Vous savez, le tartre qu'on a dans la bouche quand on ne fait pas de détartrage.
C'est ce qu'on voit dans les publicités.
Voilà. Le détartrage, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous verrez le lien avec le foie. Hein, il y a un lien avec le foie. C'est que dans cette plaque dentaire, vous allez avoir des germes qui vont se développer, hein, ça fait partie de la flore bactérienne buccale, qui vont se développer et qui sont en général des germes inflammatoires, plutôt des grammes moins, donc des germes inflammatoires, des bactéries inflammatoires. Et tous les jours, vous allez les avaler. Vous allez en avaler des milliards. Elles vont aller où ? Dans l'estomac, il y en a une partie qui va être détruite par l'acidité de l'estomac, mais une autre partie qui va passer. Et elle va aller changer l'écologie locale de votre tube digestif. Souvenez-vous, on a 10 fois plus de germes dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. Donc c'est un vrai écosystème que nous hébergeons dans le tube digestif. Donc vous enflammez le tube digestif à cause de cette plaque dentaire. Et à ce moment-là, cette inflammation va dans le foie. Et quand le foie est inflammé, eh ben, il fait moins son travail, et particulièrement lequel ? Celui de réguler la glycémie. Donc, vous voyez comment un truc simple. Donc, un message à nos auditeurs. vraiment message à nos auditeurs, faites attention à vos dents, brossez-les avec une brosse électrique matin et soir, 2 minutes, d'accord ? Parce que ça, d'abord, ça vous fera économiser beaucoup d'argent, parce que vous savez très bien que faire des couronnes, mettre des implants, ça coûte très cher. Non pas parce que le dentiste est très bien payé, tout simplement parce qu'il faut une infrastructure, il faut un bloc de chirurgie, les matériaux coûtent très cher, hein, les céramiques et ainsi de suite. Et donc, vous allez économiser beaucoup d'argent. Mais surtout, surtout, vous allez pouvoir mâcher des protéines. Et si vous mâchez des protéines, vous augmentez et vous diminuez donc les sucres. Et à ce moment-là, vous avez une espérance de vie qui va rallonger. Vous voyez comme quoi des petits détails. Et quand vous allez chez votre dentiste, parce que le détartrage, c'est un travail difficile hein, quand même. Hein. Il ne faut pas que ce soit un détartrage de 5 minutes aux ultrasons. Il faut que ce soit un détartrage qui va durer entre un quart d'heure et une demi-heure. Et demandez-lui d'ailleurs, de vous mettre une petite crème anesthésiante. Parce que souvent, les gens n'y vont pas parce que ça fait mal, les ultrasons. Ça peut faire mal. Bien entendu, il y a des dentistes qui font pas mal. Mais en moyenne, on n'y va pas la fleur au fusil en disant « Il est chouette aujourd'hui, j'ai un détartrage. » Donc, faites mettre un peu de crème. C'est la crème avec de la xylocaïne. Il en met un petit peu juste avant. Et vous ne sentirez rien. Et vous aurez justement, vous vous ferez une santé d'acier si vous avez des dents d'acier.
On revient sur la sarcopénie. Alors, qu'est-ce que c'est précisément?
Excusez-moi, il y a une chose qui m'a échappé, c'est que quand on a ce sucre avec l'âge, on sait aujourd'hui que plus on consomme, plus on a une charge glycémique importante, ouais, plus on risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires et des problèmes cardiaques. Il faut le savoir. Donc, vous voyez comment, en partant d'un vieillissement naturel normal, plus le fait de ne plus avoir le goût pour les protéines, on augmente proportionnellement les féculents ou les sucres, et à ce moment-là, on continue à attaquer son système cardiovasculaire. Et ça, c'est vrai pour les gens qui n'ont pas de diabète, comme pour les gens qui ont un prédiabète et les gens qui ont un diabète.
Oui, et puis il y a cette idée qu'avec l'âge, on est moins actif, donc il faut manger moins de protéines.
Voilà. Et alors très, très bonne question, Philippe, parce qu'il faut enlever un mythe qui circule de partout. On dit, alors, premier mythe, à partir de 20 ans, on perd des neurones. On perd tant de milliers de neurones.
Longtemps, c'est ce qu'on nous a dit, jusqu'à ce qu'on découvre.
Okay. Non. Donc on en refait des neurones, hein, parce que si on s'exerce, on fait des neurones. Puisque, en fait, le cerveau, c'est un élément extrêmement plastique, au sens de la plastique, de la pâte à modeler. Si vous lui demandez des choses, eh ben, il va les faire. D'accord ? Si vous lui demandez rien, et que vous restez sur votre canapé devant la télévision, eh ben, petit à petit, il va fermer des boutiques. Puisque vous n'avez pas besoin de ces boutiques. La boutique de l'analyse, la boutique de l'esprit critique, la boutique de l'apprentissage, il va les fermer. Si en plus, vos vaisseaux sanguins sont sucrés, et qu'on glique des neurones, eh ben, on empêche la transmission de l'influx nerveux et donc on accélère le vieillissement. Vous voyez comment c'est fait ? C'est vraiment quelque chose de très très important. Donc on fait...
Alors premier mythe sur les neurones.
Les neurones, deuxièmement sur les muscles. 70 ans, vous faites du muscle si vous vous exercez.
Il n'y a pas cette idée qui consiste à dire qu'à partir d'un certain âge, on fabriquait plus de muscles, en fait.
La réalité, c'est qu'à partir d'un certain âge, c'est vrai pour les femmes lorsqu'elles ont la ménopause, et les hommes, quand ils commencent leur andropause, en fait, c'est une inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes, la ménopause, c'est un arrêt assez doux, ça prend 4-5 ans, hein, puisqu'il y a la pré-ménopause, on a des bouffées de chaleur, on a du mal à dormir, on est un peu irritable, on prend un peu de ventre, et tout ça. Ça, parce que les hormones sexuelles, c'est des hormones qui stimulent beaucoup la formation de muscles. Pourquoi d'ailleurs ? Vous savez ce que c'est pourquoi les hormones sexuelles stimulent les muscles ? Tout simplement parce que il faut chercher l'autre. Parce que la nature ne veut qu'une chose, c'est se perpétuer et avoir une descendance. Donc, il faut avoir des muscles pour chasser, avoir des muscles pour aller chercher son promis ou sa promise. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et à un moment, quand on a fait les enfants, avec l'âge, ça s'arrête. Et à ce moment-là, on fait moins de muscles. On a moins de... Parfois, le désir est un peu altéré, bien qu'aujourd'hui, les choses sont très, très relatives. Donc, on fait du muscle à 70 ans.
On continue. Voilà. C'est pour les gens qui se posent la question de l'intérêt de se mettre, par exemple, à faire du sport ou de la gym à passer 60 ans.
Vous pouvez commencer à 60 ans. Vous pouvez commencer à 70 ans. La seule limite, c'est souvent l'arthrose des articulations. Et si vous faites de l'exercice, faites un jour sur deux, un jour sur trois, pour permettre à vos articulations de récupérer. On sait tous que quand on jouait au foot à 15 ans, on se faisait une petite truc, ben, le lendemain, ça allait. Et ben pas à 60 ans.
Hein. Il y a une troisième, il y a un troisième mythe ou il y en a que deux?
Non, enfin moi, les deux mythes que je connais, c'est...
C'est cela.
Voilà, c'est cela.
Hein. Bien. Alors, on va laisser les mythes reposer le temps d'une page de publicité. Je rappelle que le standard est à votre disposition. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Alors, le sucre nous fait-il vieillir? C'est ce que nous sommes en train de voir avec le docteur Alouche dans cette deuxième émission consacrée au sujet. Et un phénomène qu'on n'a pas encore abordé, c'est le phénomène de l'inflammation. Oui. Alors, en quoi est-ce que le sucre est inflammatoire pour l'organisme?
Alors, je vais prendre peut-être l'exemple des centrales nucléaires. Mmh. Vous savez qu'on a eu cette année un problème, c'est que il y avait une usure des tuyaux qui refroidissent le cœur des réacteurs. Je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, donc que les spécialistes ne me réveillent pas. Mais en fait, il y avait une usure qui était liée à l'eau elle-même. Mm-hmm. L'eau, on le sait, hein,
elle calcaire, finit,
elle est, elle, ouais. Le calcaire, mais mm-hmm. ce sont des eaux adoucies de toute façon. Mais il y a aussi dedans des impuretés qui font qu'à la limite, il y a une corrosion des tuyaux. Eh bien, c'est exactement la même chose chez l'homme. C'est-à-dire que le sucre en lui-même, il est inflammatoire. Alors, ça vous paraît un peu fou, mais ce n'est pas fou. On a besoin de cette glycémie à jeun pour rester en vie. Mais on a besoin d'oxygène aussi. Et pourtant, l'oxygène qu'on respire, elle est oxydante. Donc, c'est nécessaire. Si on était resté au fond des mers avec les vapeurs soufrées des volcans, vous savez qu'on a dans nos cellules, vous savez que dans les acides aminés essentiels, ils sont tous soufrés. C'est-à-dire que c'est tous des acides aminés. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans l'évolution, quand il y avait des bactéries qui vivaient au contact de ces sources d'eau chaude soufrées au fond des mers, eh ben, il fallait absorber le soufre. Eh ben, on a gardé ça dans le cadre de l'évolution. Donc on a les acides aminés essentiels sans lesquels nous ne pouvons pas vivre, sont dits soufrés.
D'accord. Mais est-ce
donc
que c'est...
l'oxygène use aussi. L'oxydation.
D'accord, il n'y a pas que le sucre qui est oxydant.
Quand on prend des compléments alimentaires antioxydants, qu'est-ce qu'on fait? On compense l'effet d'oxydation de l'air. Non, mais on ne peut pas se passer d'air, comme on ne peut pas se passer de la glycémie à jeun. Donc il y a une usure qui est liée au fait d'avoir du sucre dans le sang. Mais si on en a trop, eh ben à ce moment-là, il va y avoir d'autres phénomènes qui vont commencer à intervenir. Et particulièrement, si on en a trop, plus trop du fameux LDL cholestérol. Vous savez qu'on a fait une émission sur le cholestérol que je vous invite à revoir parce que c'est important de comprendre le cholestérol parce qu'on dit beaucoup de choses qui n'ont strictement aucun sens concernant le cholestérol. Le cholestérol est indispensable à la vie. D'accord ? D'accord ? Mais ce sont les transporteurs. Il y a le cholestérol, rappelez-vous, il est fabriqué à 80% par votre foie, donc 20% apporté par l'alimentation. Les grands pourvoyeurs de cholestérol, c'est la charcuterie, certaines graisses, les œufs, le beurre, voilà. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Hein. Ça veut simplement dire qu'ils amènent 20%. Donc, voilà. Les 80% du cholestérol, qu'est-ce qu'il fait? Le cholestérol, il est nécessaire pour faire des hormones, des membranes, fluidifier le sang. Il en a besoin pour le cerveau et ainsi de suite. Donc ce cholestérol, il est transporté en dehors du foie. Il a un transporteur. Il a une poste, il a un livreur Amazon, hein, vous savez, et il prend ce cholestérol et il les amène un peu partout. Et puis, ça c'est celui qui l'amène un peu partout, c'est le LDL, Low Density Lipoprotein. C'est un transporteur, le LDL. C'est pas le mauvais ou le bon, c'est le transporteur. Hein, votre livreur, il n'est pas mauvais ou bon. Votre facteur, il n'est pas mauvais ou bon. Il vous amène du courrier ou il vous amène des marchandises.
Ah, vous dites ça parce que longtemps, on a dit que c'était le mauvais.
Ensuite, vous avez l'autre, celui qui est chargé de ramener le cholestérol utilisé au foie. Et le cycle continue, puisque l'homme, c'est un cycle continu. D'accord ? Eh bien, il se trouve que si vous avez trop de LDL et pas assez de HDL, ça veut dire qu'on vous livre beaucoup et on ne vous en ramène pas assez. Donc, vous comprenez que où reste le cholestérol, il reste dans les organes et il reste dans les vaisseaux sanguins. Voilà. Et comme il reste dans les vaisseaux sanguins, à ce moment-là, il va provoquer le vieillissement accéléré de vos tuyaux. Et quand les tuyaux commencent à vieillir, eh bien, ils amènent moins de sang.
Ouais. Alors, on a Manika qui attend au standard. Manika, bienvenue.
Oui, bonjour, Philippe, bonjour, docteur. Moi, c'est juste une question, parce que là, j'ai 57 ans, et donc,
j'ai pas de retour.
Au niveau du sucre... Allô?
Alors, attendez, parce que Manika, on va juste, ouais. Voilà, on est en train juste de donner du son au docteur Ralouche, qui maintenant a du son, et qui vous entend parfaitement. Manika, vous avez donc 57 ans, et au niveau du sucre, quoi?
Oui, j'essaie de perdre du poids parce que je suis très en surpoids. Et là, j'ai commencé il y a, on va dire, quelques semaines. Donc, depuis longtemps, j'ai enlevé le sucre du café, les pâtisseries, je ne mange pas, les sodas, tout ça. Mais je crois que j'ai trop supprimé. Puis en fin de journée, j'ai comme des vertiges, c'est-à-dire que j'ai un manque de sucre. Il faut que... Donc là, je me jette sur n'importe quoi pour que ma glycémie remonte.
Oui, Manika, ça c'est caractéristique...
Ouais,
si vous voulez, il ne faut pas que lorsque vous faites une intervention comme ça, alimentaire, il ne faut pas qu'elle soit trop restrictive, pour une bonne raison. Et vous allez comprendre. Ouais. C'est que le sucre permet de fabriquer de l'énergie, de l'ATP. Alors, souvenez-vous que le sucre, ce n'est pas le carburant, c'est ce qui permet de fabriquer de l'énergie. Et ce sucre, il vous en faut un minimum pour pouvoir pratiquer l'exercice physique. Parce que c'est l'exercice physique et vos muscles qui vont brûler le sucre. Si vous faites un régime trop restrictif, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va se dire, oh là là, j'ai plus mes calories, donc ce que je vais faire, je vais manger mes muscles. Et vous allez manger vos muscles. Donc déjà, vous allez être fatigué. Vous allez avoir une sorte d'épuisement le soir. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher. Et donc, ce qu'il faut, c'est un véritable équilibre. Il faut que les sucres, vous les mangiez sous forme de pain, par exemple, ou de féculents, mais plutôt, c'est paradoxal, le matin et à midi. Parce que vous allez les brûler, parce que vous allez marcher, parce que vous allez vous occuper de vos enfants, parce que vous allez travailler, parce que aussi, vous allez avoir une activité physique. Et le soir...
Non, le problème, moi, c'est que... c'est vrai que peut-être que je deviens un peu sédentaire, là. J'arrive plus à bouger.
Pourquoi vous devenez sédentaire, Manika?
Le matin, je sais pas, peut-être que après il y a un cumul de tous mes problèmes qui me reviennent et j'ai envie de rien faire. Je baisse les bras, tout ça, donc je fais rien.
Oui, alors il y a c'est très important ce que vous dites. Il y a plusieurs choses dans votre propos.
Ouais.
Le premier, c'est que si vous avez des pensées récurrentes et que vous êtes angoissé parce que votre situation familiale, votre situation financière est compliquée, je vais vous dire une chose qui est peut-être facile à dire, moins facile à faire. Les problèmes, c'est pas comme les clés, on les perd jamais. Donc, que dans une journée, les clés, vous pouvez les perdre. Les problèmes, je vous rassure, vous les aurez. D'accord. Donc, si vous vous autorisez, dans la journée, à avoir une espèce de fenêtre pendant 2 heures, où votre cerveau va vous ficher la paix, parce que vous êtes probablement quelqu'un qui mesurait toujours les problèmes que peuvent engendrer les problèmes. Vous savez, c'est souvent des gens comme vous, les arborescents, on les appelle. C'est-à-dire qu'ils voient toutes les possibilités, et souvent les mauvaises possibilités, et du coup, ça les arrête dans leur vie. Il faut que vous changiez
ça.
Il faut que aussi vous ne soyez pas trop perfectionniste, parce que souvent, quand on est trop perfectionniste, on se dit j'y arriverai jamais, et donc on n'y va pas. Et aussi, il faut s'autoriser des choses. Il faut que vous soyez gentil et sympa avec vous, parce que vous êtes probablement une femme sur le contrôle. Vous aimez bien contrôler les choses, et on vit dans un monde aujourd'hui où il est extrêmement difficile d'avoir un contrôle sur les événements. La preuve, c'est qu'il se passe tous les jours quelque chose, qui sont renforcés par des médias qui parfois mettent en exergue des choses qui ne devraient pas être mises en exergue, qui sont des faits divers, et qui rendent la vie absolument épouvantable pour les gens qui aiment le contrôle. Ils se disent, mais je vis dans quoi? Et ils arrêtent de vivre, au fond. Enfin, ils n'arrêtent pas de vivre physiquement. Ils arrêtent de vivre pour eux. Donc, première chose pour vous, vous avez le droit d'être heureuse dans votre vie, et vous avez le droit de vous donner 2 heures dans la journée où vous laissez vos problèmes comme vous posez vos clés. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner. Pardonnez, c'est peut-être un peu facile et c'est un peu de la psychologie à deux euros.
Ouais, c'est vrai,
mais
ouais.
Vous prenez un symbole, un objet qui est pour vous symbolique de vos problèmes. Vous le mettez sur une petite coupelle dans votre entrée. Vous dites, bon, ils sont là. Je les pose. D'accord. Je vais faire ma vie. De toute façon, je les reprendrai tout à l'heure. Et essayez d'avoir des gestes symboliques. Vous savez, dans les religions, il y a souvent des gestes symboles comme ça, qui sont des gestes qui, au fond, ne rime, pourrait pour les gens extérieurs dire mais ça sert à quoi de faire ça, de faire là, mais qui sont extrêmement importants pour pouvoir être en contact avec son créateur, pour être en contact avec soi-même, pour pouvoir méditer. Et il faut que ces gestes symboliques, donc posez cet objet sur une coupelle où vous vous dites, ben voilà, et je vais me donner 2 heures. Et donc après, il faut structurer votre nouveau régime. Si vous prenez du poids, c'est parce que vous n'avez pas une balance bonne entre le, ce que vous mangez et ce que vous brûlez. On sait aujourd'hui que lorsqu'on pratique 3 fois 50 minutes d'exercice physique par semaine, on diminue de 56% le risque de devenir prédiabétique ou diabétique. Donc l'exercice physique, vous avez 57 ans, Malika.
Oui, je suis pas diabétique. Je me surveille quotidiennement.
Mais vous avez
je suis
57
à 97.
Ans. Vous avez 57 ans.
Ouais.
Bon,
ouais.
57
ouais.
ans. Ouais, vous ouais. prenez. Vous avez des enfants.
Oh, ils sont grands. Oui, j'ai plus personne à ma charge.
D'accord. Vous avez des petits enfants.
Non, pas encore.
Pas encore. Bon, ben, si Dieu veut, vous en aurez. Et ouais. une chose qui est évidente. Ouais. Prenez votre sac 3 fois par semaine, comme un métier, et allez bouger. Et vous verrez que en refaisant du muscle. Rappelez-vous, on l'a dit sur cette antenne, 1 kilo de muscle brûle 30 calories par jour sans bouger. Donc plus vous aurez... Donc l'exercice ne vous permettra pas de maigrir. Il vous permettra d'augmenter votre masse musculaire et donc d'augmenter par proportionnellement ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est-à-dire votre empreinte carbone, on va faire à la mode. Hein. C'est-à-dire ce que vous brûlez en calories par jour pour rester en vie. C'est ça qu'il faut faire, Malika. Et il faut vous donner un peu de tranquillité dans votre tête. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui bouillonnent et qui vous empêchent.
Il faut travailler beaucoup mon cerveau, ouais.
Exactement. Ouais. Mettez-le au calme, faites de la méditation, faites des moments, donnez-vous des moments pour vous où vous pouvez vous retrouver. Parce que sinon, si la vie c'est juste une suite ininterrompue de problèmes qu'il faut régler, c'est invivable. D'accord? Donc essayez de faire ça, vous avez le droit de faire ça, vous avez 57 ans, vous avez réussi vos enfants, donc vous le méritez. Donc faites-le, s'il vous plaît.
Ok, d'accord.
Ok. Voilà, je suis désolé d'être
et mettez vos problèmes dans la soucoupe.
Dans la soucoupe, et vous verrez. Alors, je sais, ça peut paraître un peu.
Non, j'aime bien l'image.
Mais vous savez, la vie, c'est une affaire de symboles. Il y a beaucoup de symboles. Hein, tout est symbole. Et quand on oublie ces symboles, eh bien, à ce moment-là, on a une vie un peu moins agréable.
Voilà, Malika.
Merci, docteur, c'est gentil. Merci, Philippe aussi.
Merci. Gros bisous, Malika. Vous insistez souvent sur le fait qu'il faut bouger. Hein. Bouger, oui. C'est pas forcément aller à la salle de sport. Hein.
Bouger, ça peut être monter des escaliers. Par exemple, vous habitez au cinquième étage, vous prenez l'ascenseur, ne prenez pas l'ascenseur. Montez les escaliers, ne les descendez pas. Parce qu'avec l'âge, on a des problèmes aux genoux. Et si on descend les marches, à ce moment-là, on va taper sur des surfaces qu'on appelle patellaires. Hein, et à ce moment-là, ça fait mal. Mais montez-les, ne les descendez pas. Si vous faites ça tous les jours, c'est un véritable exercice, les escaliers. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, vous verrez que souvent, j'ai des patients qui disent « Oui, mais quand je monte les escaliers, je fais de l'exercice, mais quand je monte les escaliers, je suis essoufflé. » Vous savez pourquoi ? Parce que souvent, quand on fait de l'exercice, comme je l'ai conseillé à Malika, on est dans sa zone de confort. On fait toujours les mêmes choses.
On est au même rythme. On n'augmente pas l'intensité.
Votre organisme, lui, qui est très épargnant de calories et d'énergie, il s'habitue et il fait marcher toujours les mêmes muscles. Donc il faut toujours sortir un peu de sa zone de confort. Faire du fractionné, par exemple. Hein, c'est-à-dire, le fractionné, quand vous allez faire, par exemple, de l'elliptique ou du rameur ou du vélo ou de la natation, vous nagez cool pendant, par exemple, deux longueurs et puis vous en faites une à fond. Et puis vous refaites deux, trois longueurs pour vous reposer et ainsi de suite. Le fractionné, c'est excellent pour perdre du poids, c'est excellent pour consommer du sucre.
Donc il faut bouger.
Ah oui.
Et trois fois par semaine, ce que vous disiez à Malika, hein, c'est trois simple. Fois. Voilà. Trois fois 50 minutes, ça fait, c'est bon, on va dire trois heures.
Voilà. Si vous faites un peu de composition corporelle, sachez qu'on a en moyenne 80% d'os, d'organes et de muscles. D'accord. 20% de gras. Voilà. 5, 10, 15, 20, 25, 30, on s'en fiche. En moyenne. Si vous n'utilisez pas ces 80%, ben qu'est-ce qui se passe ? L'homme, il a été fait comme ça, pourquoi ? Pour courir, pour chasser, pour travailler. Enfin, travailler après, c'est un symbole, mais en fait, pour bouger. S'il ne bouge pas, c'est 80%. C'est comme si vous étiez une entreprise qui n'utilise pas 80% de sa ressource et de son personnel. Eh bien, elle ne tiendra pas longtemps. Voilà. Donc, bouger, ça n'est pas incantatoire. Voilà, ce n'est pas performatif. Vous bougerez et alors vous... C'est la réalité de la vie. C'est comme ça que ça a été fait.
Docteur Réginald Lalouche sur Beurre FM. Alors je rappelle que la méthode hépato-détox mincir durablement et sans danger grâce au foie et chez Albin Michel. Vous pouvez vous le procurer. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes aujourd'hui de téléchargement où vous retrouvez les émissions de Beurre FM. Et vous verrez la vidéo sur YouTube que vous pouvez commenter. Vous pouvez poser vos questions au docteur Alouche sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Doc d'être là. Hein, voilà, jeudi de l'Ascension.
Merci à la technique et merci à
Philippe. Ah oui, parce que Faudil, lui aussi, s'est levé ce matin.
Il est là.
C'était
un plaisir de rouler ce matin. Dans Paris.
C'est génial.
Ah, absolument génial. Ah, ouais. C'est là où on voit que Paris
Qu'Anne Hidalgo est un bon maire. Très belle journée santé. Très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.